Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Nous poursuivons notre série sur les maladies des vaisseaux du foie et aujourd'hui nous nous intéressons particulièrement aux maladies des vaisseaux du foie et à la grossesse. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Audrey Payancé et le professeur Pierre-François Sekaldi. Docteur Payancé et professeur Sekaldi, bonjour.
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 Docteur Payancé, vous êtes hépatologue, praticien hospitalier au sein du service d'hépatologie de l'hôpital Beaujon à Clichy et clinicien au sein du centre de référence des maladies vasculaires du foie. Professeur Sekaldi, vous êtes gynécologue obstétricien, professeur des universités et chef de service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Beaujon à Clichy. Alors, docteur Payancé, professeur Sekaldi, on parle aujourd'hui des maladies des vaisseaux du foie et de la grossesse. Ma première question est très simple. Quelles sont les maladies des vaisseaux du foie les plus fréquentes chez les femmes en âge de procréer?
Les maladies vasculaires du foie, de toute façon, en général, c'est des maladies qui vont toucher particulièrement les femmes. Il y a le syndrome de Budd-Chiari, la thrombose de la veine porte et la maladie vasculaire porto-sinusoïdale. Par exemple, globalement, ça touche 2/3 des femmes pour les syndromes de Budd-Chiari, 50% pour les deux autres maladies, et ça peut atteindre plus de 50% chez les patients qui ont un syndrome de Budd-Chiari, qui sont uniquement des femmes en âge de procréer, donc des femmes jeunes. Donc c'est vraiment cette population qui est touchée. Et depuis quelques années, finalement, grâce aux nouveaux traitements, on a une prise en charge qui s'est nettement améliorée et des patientes qui ont une qualité de vie et surtout une survie qui va permettre tout à fait d'envisager un projet de grossesse, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ou 30 ans. Et puis je pense qu'on va en discuter, mais ça doit être des projets qui sont certes tout à fait envisageables, mais qui doivent être extrêmement médicalisés. Les deux situations qui sont la maladie des vaisseaux du foie et la grossesse sont des situations qui peuvent entraîner des hémorragies ou des thromboses. Et de plus, ce sont deux situations qui peuvent interagir l'une sur l'autre. Donc nous, notre rôle, ça va vraiment être d'encadrer de façon assez médicalisée et strictement la grossesse pour éviter ces deux principales complications.
Alors justement, professeur Sekaldi, comment programmer une grossesse chez une patiente atteinte par une maladie des vaisseaux du foie?
Alors, je crois que la première chose, c'est que les collègues spécialistes, médecins généralistes peuvent dire à leurs patientes, c'est que oui, une grossesse est possible. Déjà, il faut être rassurant là-dessus. Alors, pourquoi c'est possible? Mais il y a un grand mais. La grande condition, c'est bien sûr que la maladie puisse être contrôlée et en tout cas que le bilan de la maladie puisse être fait avant qu'il y ait grossesse dans la mesure du possible. Et c'est pour ça que, à titre d'exemple, à Beaujon, on a depuis maintenant plus d'une dizaine d'années avec l'équipe, avec Audrey Payancé et avec Aurélie Plessier, par exemple, on a une véritable consultation préconceptionnelle pour pouvoir répondre à un maximum de questions des patientes en téléconsultation, mais aussi aussi une télé-expertise pour les collègues de ville de toute la France et plus qui auraient des questions sur le sujet. Donc oui, ça se prépare, car une maladie stable a toutes les chances, une patiente stable a toutes les chances d'avoir une grossesse qui se déroule dans les meilleures conditions.
Et quels sont les risques à surveiller en cas de grossesse chez une patiente atteinte d'une maladie des vaisseaux du foie?
Ce qu'on propose en tant qu'hépatologue, c'est vraiment de voir la patiente au minimum une fois chaque trimestre avec des bilans sanguins, une échographie du foie. En fait, on va surtout s'assurer que la maladie des vaisseaux du foie est parfaitement stable. Finalement, que la grossesse n'a pas d'impact sur la maladie du foie, que celle-ci ne décompense pas. Et donc, on va vérifier la fonction du foie, on va vérifier qu'il n'y a pas de complications comme de l'astite ou éventuellement une nouvelle thrombose du système splanchnique. Et puis, parfois, on a besoin, si ça n'a pas été fait suffisamment tôt, qu'on n'a pas pu faire ce que on a décrit précédemment en préconceptionnel et notamment le suivi des varices au niveau de l'œsophage, on peut être amené à faire des examens très spécifiques, notamment l'endoscopie, pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de varices œsophagiennes et éventuellement les traiter si besoin parce que on veut absolument éviter qu'il y ait un problème d'hémorragie au niveau des varices pendant la grossesse ou au moment de l'accouchement.
Alors, au niveau bébé, déjà, la chose importante, c'est que ces patientes, comme Audrey l'a précisé, elles vont être mises, ou elles sont déjà, pour certaines d'entre elles, sous un traitement anticoagulant. Et donc, tous les traitements anticoagulants ne sont pas forcément autorisés pendant la grossesse. Elles ne sont pas autorisées pour le bébé. Et par exemple, les antivitamines K qui peuvent donner certaines malformations au niveau cardiaque ou au niveau facial, au niveau du fœtus. Donc, pour les patientes, par exemple, sous antivitamines K, dès qu'elles se savent enceintes, il faut changer le traitement qu'elles appellent leur médecin en charge de leur en suivi de leur maladie pour pouvoir changer le traitement anticoagulant dans les meilleurs délais. Donc, je vous dirais, la première chose importante, c'est de changer en effet le traitement anticoagulant. L'autre chose après, oui, on peut se montrer rassurant. En dehors de ça, il n'y a pas de malformation induite au jour d'aujourd'hui en rapport avec la maladie vasculaire hépatique, donc du foie. Donc ça, il n'y a pas de lien. Il y a un peu plus de prématurité, mais c'est ce qu'on appelle, nous, de la petite prématurité, c'est-à-dire 36-37 semaines du fait des foies quand il y a une instabilité de la maladie sous-jacente et donc nécessité d'interrompre la grossesse avec une naissance anticipée, soit par voie césarienne, soit par les voies naturelles. Donc voilà les choses particulières. Mais globalement, une fois qu'on s'est assuré de tout ça, c'est une grossesse qui se déroule, en tout cas dans les meilleures, dans les très bonnes conditions, jusqu'à bien sûr l'accouchement.
Alors justement, en fin de grossesse, comment préparer l'accouchement de ces patientes?
Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une grossesse qui va se dérouler sous anticoagulant. Donc, il va y avoir un suivi, bien sûr, tout au long de la grossesse. Et puis, à un moment donné, toute femme enceinte aujourd'hui a forcément une concession d'anesthésie en France en vue de discuter de la péridurale. Et pour qu'il puisse y avoir cette péridurale, cette analgésie, et d'éviter aussi le risque hémorragique au moment de l'accouchement, il va falloir faire ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire autoriser. Alors ça, c'était sous contrôle des collègues du laboratoire d'hémostase, et en accord avec le collègue hépatologue, bien sûr, de voir. Alors nous, techniquement, comment ça se passe très concrètement, la patiente est surveillée toutes les semaines en fin de grossesse, à partir de 36 semaines, 37 semaines, par une sage-femme, qu'elle soit à domicile ou en milieu hospitalier, ce qu'on appelle les explorations fonctionnelles, où on vérifie le commencement d'ouverture du col de l'utérus, c'est-à-dire l'état d'ouverture, et dès que les conditions sont dites favorables, c'est-à-dire que le col est suffisamment ouvert, eh bien, on va hospitaliser, programmer l'accouchement, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'une patiente peut tout à fait accoucher par la voie naturelle malgré sa maladie. Donc ça, c'est aussi un message important à communiquer aux patientes. Oui, elles peuvent avoir un accouchement par la voie naturelle. Et d'autant plus même, je vous dirais, on a constaté ça sur de nombreuses études réalisées au sein du centre de maladie des vaisseaux du foie là-dessus. Il est même conseillé qu'elle accouche potentiellement plus par les voies naturelles pour éviter tout ce qui concerne circulation veineuse collatérale au niveau de la paroi, au niveau du ventre, en fait, du bas-ventre, et qui risque d'être circulation veineuse qui risque de gêner au moment d'une césarienne avec un risque hémorragique cette fois-ci qui est d'autant plus augmenté par césarienne. Donc ça nécessite en effet une prise en charge, on va dire, au moment de décider de l'accouchement, un monitorage, c'est comme ça qu'on appelle ça, un monitorage de fin de grossesse en vue d'une indication de, dans la mesure du possible, d'accouchement par les voies naturelles et en tout cas d'éviter les complications qui pourraient être du fait d'une circulation veineuse collatérale.
Et après l'accouchement, cette fois, docteur Payancé, quel est le suivi proposé en postpartum?
C'est vrai qu'en postpartum, c'est vraiment une période à ne pas négliger. C'est une période importante parce que le risque, en fait, de thrombose est important, et notamment les 6 à 8 semaines qui suivent l'accouchement. Donc, c'est des patientes chez qui on va avoir envie de réinstaurer le traitement anticoagulant assez rapidement, dès que finalement les obstétriciens nous le permettent, en nous expliquant que voilà, il n'y a pas de saignement, d'hématome ou de problème particulier, et on réinstaure l'anticoagulation le plus rapidement possible. Le plus souvent, ce sont des patientes qui ont déjà avant la grossesse un traitement anticoagulant au long cours, donc on le réinstaure pour une durée généralement à nouveau au long cours. C'est assez rare que les patientes soient traitées uniquement sur les 6-8 semaines qui suivent le postpartum. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si les femmes allaitent notamment, on ne peut pas utiliser tous les anticoagulants. Il y a d'autres questions qui sont souvent posées après l'accouchement, c'est la reprise de la contraception. C'est vrai que on contre-indique généralement tous les contraceptifs oraux qui sont œstrogènes dérivés, et on va plutôt préférer les dispositifs intra-utérins et éventuellement la contraception orale à base de progestatifs seuls pour la reprise de la contraception.
Alors, on a largement abordé la grossesse chez des patientes atteintes de maladies des vaisseaux du foie connues, mais dans de plus rares cas, une maladie des vaisseaux du foie peut se révéler lors d'une grossesse. Quels sont les principaux symptômes d'alerte d'une maladie des vaisseaux du foie qui peuvent survenir lors d'une grossesse ?
C'est tout à fait possible, effectivement, en fait, de découvrir la maladie des vaisseaux du foie au moment d'une grossesse. Ça reste une situation assez particulière, puisque tout ce qu'on vient de dire, c'est que on préfère qu'une grossesse se déroule quand on est au courant de la maladie, qu'elle est stabilisée. Donc, c'est forcément un contexte un peu particulier. Mais c'est vrai que ça existe. C'est pas rare dans le cas du syndrome de Budd-Chiari. Pour vous donner une idée, la prévalence des femmes qui ont un syndrome de Budd-Chiari au moment d'une grossesse, c'est de l'ordre de 16%. Mais il faut savoir que c'est quand même souvent des patientes qui ont déjà un autre facteur de risque de thrombose que uniquement la grossesse. Donc, quand ça arrive, il faut vraiment, si ce facteur n'est pas connu, absolument le rechercher. Et pour la thrombose de la veine porte, c'est un petit peu plus rare, cette situation. C'est de l'ordre de 0 à 4%. C'est un petit peu pareil. Au final, nous, on considère que la grossesse à elle seule n'est pas un facteur de risque de thrombose de la veine porte. Donc, en gros, on recherche toujours quand même d'autres explications à juste la grossesse quand ça survient. Et puis, par rapport à votre question sur les symptômes, finalement, les modes de découverte des maladies des vaisseaux du foie au cours de la grossesse, c'est pas très différent des modes de découverte en dehors de la grossesse. Donc, ça peut être des signes d'hypertension portale, comme la thrombopénie, la splénomégalie, la découverte de varices œsophagiennes. Éventuellement une douleur abdominale brutale dans le cadre de la thrombose de la veine porte, et puis éventuellement l'apparition d'une ascite pendant la grossesse, et dans d'autres cas un peu plus graves, notamment des Budd-Chiari qui seraient un petit peu sévères, ça peut être sur les bilans sanguins avec l'apparition d'une insuffisance hépatique. Donc c'est pas très très différent finalement des autres situations en dehors de la grossesse.
Eh bien, merci mille fois docteur Payancé, professeur Secaldi, de nous avoir éclairé sur ces maladies des vaisseaux du foie en situation de grossesse. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur les maladies vasculaires du foie. À très vite.